C'est l'info sur Radio Panique.
Vous écoutez bien Radio Panique sur le 105.4 FM ou en streaming sur www.radiopanique.org. Et puis bienvenue à ce petit matin révolutionnaire, le troisième d'une série réalisée dans le cadre de la programmation transversale Révolution arabe qui a lieu pendant tout le mois de juin.
Et à défaut du grand soir ou disons en l'attendant, on se lance avec ce petit matin révolutionnaire. Le concept, on prend une demi-heure pour vous narrer une révolution, ce qui peut se définir comme telle. Alors soit une révolution d'un passé plutôt éloigné ou plus proche de nous, voire en cours. C'est l'idée de parler d'une révolution qui a lieu dans un pays en particulier ou une zone géographique ciblée.
Et puis quand on parle de narrer une révolution, on entend par là suivre le défilement chronologique des événements avec humilité et en reconnaissant les limites de l'exercice.
Et aujourd'hui, après le Yémen et le Mexique, on se penche sur le Québec. Et oui, ça peut paraître étonnant de vouloir comparer les manifestations étudiantes qui ont lieu là-bas en ce moment à une révolution, mais osons le rapprochement.
Et avant de plonger dans la trame de l'histoire, laissons-nous bercer par la musique de là-bas, avec ce titre des artistes Ivy et Ridgie, Québec réveille, un appel à la révolution pour cette chanson écrite il y a plus de 25 ans, mais toujours à propos.
Et commençons sans plus tarder avec une double carte postale du Québec. L'une qui sera volontairement touristique, attractive, et l'autre plus critique face aux droits fondamentaux, aux droits sociaux dans ce qu'on appelle la belle province.
Alors débutons le voyage, Bruxelles, direction Montréal. 5500 km qui séparent la capitale belge de la métropole québécoise.
Alors s'il fallait résumer cette province à majorité francophone d'un Canada à majorité anglophone, avec des lunettes de touristes en manque de splendeur outre-Atlantique, ça donnerait ceci.
Une superficie de plus de 1,5 million de kilomètres carrés, l'équivalent de près de 55 fois la Belgique.
Pour une population de seulement 8 millions d'habitants, un tiers de moins que la population belge. Une population près de 73 fois moins dense qu'ici.
Et quand on parle du Québec, on pense tout de suite à quoi ? À l'immensité du paysage. Le Grand Nord, sa banquise et ses chiens de traîneau. Les millions de lacs, les fjords et les baleines. Ou les forêts, les caribous et les couleurs de feu de l'été indien.
Et ces étés montréalais où les rues du centre-ville offrent des concerts à tous les coins de rue pour le festival de jazz, les Francofolies.
Ah oui, la charmante Montréal, qui est d'ailleurs la deuxième ville francophone du monde en termes de population.
Mais maintenant, l'anti-carte postale touristique.
Bon, oui, on s'entendra là-dessus, le Québec n'est pas un coin du monde aux pratiques antidémocratiques. Mais comme beaucoup d'endroits en Occident, un vent néolibéral a soufflé par là-bas, créant son raz-de-marée et faisant tomber certains acquis sociaux ces dernières années.
On n'a qu'à penser par exemple aux accords économiques en Amérique du Nord, et plus spécifiquement à la ZLEA, la zone de libre-échange des Amériques, initiée par le gouvernement américain pour faire tomber les barrières aux douanes. C'était déjà il y a 11 ans, et l'opposition citoyenne était forte dans les rues de Québec lors du sommet des Amériques.
Plus récemment, c'est l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne que craint la société civile. Ce genre d'accord pourrait causer du tort, entre autres, aux municipalités et à l'agriculture locale.
Passons maintenant du côté de la politique. Alors il faut comprendre qu'il y a deux paliers au Québec, l'un provincial et l'autre fédéral. Au niveau fédéral, ce sont les libéraux et les conservateurs qui se partagent le pouvoir depuis la nuit des temps. La gauche est quasi inexistante. Sauf l'année dernière où il y a eu une situation inattendue. Grâce en bonne partie au Québec, un plutôt petit joueur de gauche, le NPD, Nouveau Parti Démocratique, a eu une large victoire dans la province. Assez pour devenir le parti d'opposition du Canada, mais pas assez pour contrer le parti conservateur qui a obtenu une majorité confortable de voix pour diriger le pays.
Résultat ? Les conservateurs passent loi sur loi qui mettent à mal le sentiment de démocratie. Réformes profondes en immigration, à l'assurance-emploi et aux droits d'auteur. Démantèlement d'une partie du système d'évaluation environnementale. Retour des débats moraux, des compressions budgétaires drastiques, durcissement des peines encourues. obstruction auprès des journalistes à qui on refuse l'accès à certains documents portant publics, et les poursuites Bayon, avec lesquelles des entreprises peu scrupuleuses ont fait taire plusieurs regroupements de citoyens qui dénonçaient des pratiques douteuses.
Au niveau provincial au Québec, la situation n'est guère mieux avec les libéraux au pouvoir. La collusion entre les municipalités et le milieu de la construction gangrenée par une mafia arrogante démontre un flagrant manque de transparence et d'éthique.
Voilà pour la réalité du Québec et du Canada.
Mais la réalité, c'est aussi la grogne des étudiants depuis 4 mois déjà. Une grogne qui a poussé certaines personnes à parler de « printemps érable », en référence bien sûr au fameux « printemps arabe ».
Mais y a-t-il en ce moment un début de révolution au Québec ? Révolution. Un dictionnaire donne deux définitions pour ce mot. La première.
Changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État.
Bon, le changement brusque et violent, ce n'est pas vraiment caractéristique de la façon de faire des Québécois. Eux qui ont plutôt opté dans les années 60 pour une révolution tranquille. À l'époque, la province a adopté les principes de l'État-providence et une nouvelle identité nationale québécoise s'est construite en opposition au fédéralisme canadien.
Mais par contre, la deuxième définition du dictionnaire correspondrait davantage à ce qui se passe aujourd'hui au Québec. Je cite.
Changement, évolution d'une société, d'une collectivité sur le plan économique, social, culturel, etc.
Là, on pourrait se dire qu'il y a une effervescence sociale qui dépasse la grogne étudiante et qui touche plusieurs couches de la société. L'imposition récente de lois liberticides démontre aussi qu'il y a un clash entre les citoyens et le gouvernement.
Alors, plutôt difficile de parler de révolution en comparant le cas du Québec avec ce qui se passe dans le monde arabe, mais parions pour un mouvement social dont l'ampleur n'est plus à démontrer, mais les résultats sont encore à attendre.
Et avant de plonger dans la chronologie des événements qui ont lieu au Québec, on poursuit en musique. Ariane Moffat et sa nouvelle version de sa chanson « 17 mai ». Le 17 mai 2012, c'était le jour où une loi liberticide surnommée la loi Matraque a été débattue à l'Assemblée nationale avant d'être votée le lendemain. On vous en reparle tout à l'heure.
Voilà, les présentations sont faites. Plongeons maintenant dans le printemps érable au jour le jour.
Et pour comprendre la colère des étudiants depuis quelques mois, il faut faire un saut dans le passé. Dans les années 60, une commission parlementaire se penche sur l'état de l'enseignement au Québec. Les conclusions de cette commission, il faut faciliter l'accès à l'université. Et le gel, c'est-à-dire la non-augmentation des frais de scolarité, est instauré.
Mais voilà, en 2005, le gouvernement libéral est au pouvoir et propose le dégel des frais universitaires. Branle-bas de combat et résistance estudiantine, le gouvernement recule. Pour mieux sauter, 2 ans plus tard, et réussir à augmenter le fardeau financier des étudiants. Mais ce n'est pas fini.
17 mars 2011, c'est le jour du dépôt du budget au Québec. Et on annonce une hausse des frais de scolarité de 325 $ canadiens par année sur 5 ans à partir de l'automne 2012. En 2017, les frais d'inscription universitaire augmenteraient donc de 1 625 $ canadiens, soit 1 250 €.
13 février 2012, les différentes associations étudiantes proposent de voter la grève générale illimitée. Le même jour, quelques centaines de manifestants bloquent les accès à la tour de la Bourse de Montréal pendant plusieurs heures.
23 février 2012, c'est le pont Jacques-Cartier qui est bloqué. Le pont Jacques-Cartier, c'est le principal axe qui relie la banlieue au centre-ville de Montréal. Il est emprunté par plus de 100 000 voitures par jour.
7 mars 2012, une première manifestation tourne à l'affrontement à Montréal. Et le même jour, des professeurs lancent le site internet www.profcontrelahausse.org.
22 mars 2012, l'une des plus grandes manifestations de l'histoire du Québec. Entre 100 000 et 200 000 manifestants dans les rues de Montréal en soutien à la cause étudiante.
26 mars 2012, un carré rouge, symbole des manifestants contre la hausse des frais de scolarité, est installé illégalement sur la tour de l'Université de Montréal.
6 avril 2012, le carré rouge se retrouve maintenant sur le pont Jacques-Cartier.
13 avril 2012, des manifestants saccagent le bureau de la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp.
14 avril 2012, Il y a 9 ans, le gouvernement libéral qui a initié la hausse des frais de scolarité est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, 40 000 manifestants déambulent dans les rues de Montréal. On parle dorénavant de printemps québécois ou printemps érable.
17 avril 2012, un professeur est arrêté dans une université pour entrave aux policiers. Il s'est opposé à l'injonction de la direction pour un retour forcé en classe.
20 avril 2012. Pendant son discours d'ouverture lors d'un rendez-vous économique, le Premier ministre du Québec, Jean Charest, ridiculise le combat des étudiants alors que certains manifestent à l'extérieur.
26 avril 2012, une télévision communautaire étudiante, CUTV, débute sa couverture médiatique en filmant les manifestations et en proposant un flux vidéo tourné en temps réel au cœur de l'action.
27 avril 2012. Le gouvernement fait une offre aux associations étudiantes en proposant d'étaler la hausse des frais de scolarité sur 7 ans plutôt que 5. Les étudiants refusent.
3 mai 2012. Pour une plus grande visibilité médiatique, les étudiants manifestent nus, ou plutôt en petite tenue, avec des carrés rouges peints sur le corps.
4 mai 2012. Le Parti libéral du Québec, parti au pouvoir donc, organise son congrès annuel où s'affrontent violemment à l'extérieur des manifestants avec les forces de l'ordre. Un étudiant reçoit une balle de caoutchouc dans l'œil et subit un traumatisme crânien. On dénombre aussi une dizaine de blessés.
5 mai 2012. Après 22 heures consécutives de négociations, le gouvernement et les leaders des associations étudiantes signent une entente de principe. Mais cette entente sera rejeté par les membres des associations.
8 mai 2012, c'est la première apparition lors d'une manifestation d'Anarcho-Panda. Anarcho-Panda, c'est un professeur de philosophie qui, avec son déguisement de panda, offre des câlins autant aux étudiants manifestants qu'aux policiers. Une façon, en quelque sorte, de faire baisser les tensions. Mais en étant déguisé, Anarcho-Panda enfreint aussi le règlement municipal qui interdit de manifester à visage couvert sans raison valable.
10 mai 2012. Des fumigènes sont allumés dans le métro. Le service est paralysé pendant 3 heures. 4 personnes sont arrêtées.
14 mai 2012. La ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, démissionne, accusant les leaders étudiants d'intransigeance. Dépitée, elle quitte aussi la vie politique et elle est remplacée à son poste par une ancienne ministre de l'Éducation, Michèle Courchesne.
18 mai 2012, la grève dure depuis 14 semaines et une loi spéciale est adoptée, la loi 78, que certains appelleront la loi Matraque. Avec cette loi, en vigueur jusqu'en juillet 2013, les manifestants sont obligés de donner par écrit un itinéraire au moins 8 heures à l'avance en fournissant toutes les informations. Date, heure, durée, lieu, en plus du moyen de transport utilisé. C'est donc la police qui peut maintenant décider si une manifestation est légale ou pas.
Et plusieurs voix s'élèvent face à cette nouvelle loi. Des juristes qui manifesteront dans la rue, mais aussi des associations comme Amnesty International et des organisations internationales comme l'ONU qui émettront chacune des communiqués de presse pour dénoncer cette loi.
Toujours le 18 mai 2012, l'acteur-réalisateur québécois Xavier Dolan et son équipe portent le carré rouge sur le tapis rouge du Festival de Cannes.
Et dans les jours qui suivent, des manifestations se multiplient aux quatre coins de la province. À Québec, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski.
Les Québécois hors frontières se mobilisent aussi, à Paris, Londres, New York.
19 mai 2012. Le collectif Anonymous menace le gouvernement québécois et opère une cyberattaque sur les sites web du Parti libéral au pouvoir et celui du ministère de l'Éducation.
20 mai 2012, avec plus de 300 arrestations lors de la manifestation du jour, le nombre des arrestations depuis le début de la crise étudiante atteint le chiffre de 2000.
21 mai 2012, le collectif Anonymous, toujours, opère une seconde cyberattaque. Cette fois, le groupe pirate une dizaine de sites gouvernementaux, dont ceux du ministère de la Sécurité publique et du site de déontologie policière du gouvernement du Québec.
22 mai 2012, c'est le 100e jour de cette grève générale illimitée. 250 000 personnes manifestent dans les rues de Montréal.
23 mai 2012, c'est la 30e manifestation nocturne. qui se conclut par une arrestation groupée sans précédent de plus de 500 manifestants à Montréal et de près de 200 manifestants à Québec. La nouvelle loi spéciale s'applique et les deux manifestations ont été déclarées illégales dès le départ, la police n'ayant pas reçu l'itinéraire des manifestants. Et le tout s'est soldé par plusieurs affrontements violents.
C'est le début aussi des manifestations de casseroles. Le soir à 20h, les manifestants sortent dans la rue et font résonner leurs casseroles pour se faire entendre auprès du gouvernement.
En date du 23 mai toujours, il y aurait 161 associations étudiantes en grève, ce qui totalise plus de 154 000 étudiants. Les cours sont toujours suspendus.
25 mai 2012, des associations étudiantes aidées par des avocats déposent un recours en justice devant la Cour supérieure du Québec pour rendre la loi 78 inconstitutionnelle.
28 mai 2012. Après 106 jours de grève, les leaders des fédérations étudiantes et le gouvernement amorcent une nouvelle ronde de négociations.
30 mai 2012, 200 étudiants québécois manifestent à Bruxelles, place du Luxembourg, avec des Belges sympathisant à la cause.
31 mai 2012, les négociations entre le gouvernement et les étudiants échouent.
4 juin 2012, Amir Kadir, le seul député au Québec d'un parti de gauche, est interpellé par la police pour avoir pris part à une manifestation illégale. Lors de sa défense, il appelle la population à réfléchir à la désobéissance civile pacifique en défiant la loi 78.
5 juin 2012, Anarcho Panda, le professeur déguisé en panda, dépose en Cour supérieure du Québec une requête visant à contester la constitutionnalité du règlement municipal anti-masque, estimant que ce règlement empiète sur ses droits fondamentaux et sa liberté d'expression.
Le même jour se tient dans un parc montréalais la première bataille d'oreillers. Oui, histoire de se défouler en douceur face à l'action, ou plutôt l'inaction, du gouvernement pour sortir de cette impasse.
6 juin 2012. Une série d'enveloppes contenant une poudre suspecte sont découvertes dans différents bureaux de députés libéraux et ceux de différents médias. La poudre, une fois analysée, est déclarée inoffensive.
10 juin 2012, la police procède à des fouilles préventives dans le métro et sur le site du Grand Prix de Formule 1 pour contrer une action visant à empêcher cet événement d'envergure internationale. La police parle ouvertement de profilage criminel.
12 juin 2012, la ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre, présente des excuses après avoir associé le carré rouge à la violence et à l'intimidation.
18 juin 2012, plusieurs humoristes organisent un spectacle au profit d'une association active dans la contestation de la loi 78. Le public applaudit les humoristes à l'aide de casseroles.
Aujourd'hui, 20 juin 2012, l'été c'est demain, mais la sève du printemps érable n'en a pas fini de couler.
On finira ce petit matin révolutionnaire avec un montage sonore de François Plourde et Xavier Caillat intitulé « Casserole musique » avec des sons de casserole et des discours solidaires avec la cause des étudiants québécois à travers le monde, Paris, Londres, New York.